Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon yaourt surgelé et traiteur de la mer. Comme le pot de 850 g de yaourt protéiné nature 0% skyr de Yoplait qui passe de 3,76€ à 3,39€, soit 10% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Prix baissé à compter du 1er juillet 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live, Intégral Euro,
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est donc l'After Live Intégral Euro 2024. Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec une Dream Team de qualité à mes côtés. Coach Courbis, salut Roland.
Salut, salut, ça c'est gentil.
Oh. Ouais, mot. Oh. Et Manu Petit, salut Manu.
Salut tout le monde. Enfin, moi ça m'embête un peu que tu dois préciser avec le qualificatif.
Pourquoi?
Bah, parce que ça veut dire que finalement, en fait, on est banal.
Ah non, au contraire.
Ah d'accord. Ok.
Quand on
il y a
dit
pas de l'ironie dans ce que tu as dit.
Ah, pas du tout.
D'accord.
Ah, mais je le pense vraiment.
Okay.
On se connaît un peu quand même, Manu.
Ouais. Oh, j'irai pas jusque-là. Quoi,
bon, en tout cas, on va vivre ensemble cette belle soirée. C'est le dernier huitième de finale. 21h, Autriche-Turquie à Leipzig. On va en parler avec Xavier Grimaud qui est au stade. Salut Xavier.
Salut Benoît. Salut Manu. Salut Roland. Salut à tous.
Ouais, les gars, la France, les Pays-Bas et peut-être l'Autriche qualifiée. Il était là le groupe de la mort en fait. Hein, on nous a bassinés avec la Croatie, l'Espagne, tout ça.
Tu te rends compte?
Ben non, en fait, c'était nous.
Ah, puis la Pologne, ils ne sont pas passés loin. Hein.
Ouais, les Polonais, c'était pas là en 8e de finale. À 20h30, on va présenter ce match, hein, Xavier. Est-ce que les Turcs peuvent créer la sensation? On parlera également de l'Autriche avec cette présentation de Paulo Breitner. On vous rappelle que les Pays-Bas sont qualifiés pour les quarts de finale. Victoire 3-0 face à la Roumanie. Johan Crochet, notre spécialiste également du foot néerlandais, est là également. Salut Johan.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Salut Johan. Ravi de te retrouver également. Et puis on parlera de l'équipe de France à 20h15. Jeannot Séguy en direct de Paderborn au lendemain de la victoire des Bleus face à la Belgique. 1-0. Donc on sera là, on vous donnera toutes les infos. Est-ce que ces Bleus-là peuvent aller au bout avec un jeu si pauvre? On a hâte d'entendre Coach Courbis sur ce sujet. Et vous le savez, c'est la magie d'RMC, radio officielle de l'Euro 2024, l'expérience RMC. On vous envoie en Allemagne assister au quart de finale de l'Euro 2024 vendredi soir, France-Portugal. On vous offre le voyage à Hambourg, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Et bien sûr, vos deux places pour ce match France-Portugal, vendredi 21h. Soyez bien attentifs tout au long de cette soirée, parce que dès que vous entendrez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro, E-U-R-O, au 7-32-16. Euro au 7-32-16. 20h03 sur RMC, c'est parti pour l'After Live, Intégral Euro 2024. On y va du coup.
L'After Live, Intégral Euro.
Leipzig, Xavier Grimaud, un mot de l'ambiance qui t'attend. Est-ce que le stade est acquis à la cause de la Turquie? Parce que c'est le cas depuis le début de la compétition. Ce Turquie-Autriche qui nous attend, tu dois voir du rouge partout là, c'est sûr.
Ouais, alors déjà la RB Leipzig Arena, les sièges sont rouges. Donc déjà le stade est complètement rouge. Les supporters autrichiens sont en rouge et les supporters turcs sont en rouge. Donc là il y a vraiment du rouge partout. Mais oui, non, clairement le stade sera évidemment acquis à la cause des Turcs. Il y a 40 000 places, un petit peu moins dans la configuration Euro ici dans ce stade. Et je pense qu'il y aura au moins 20 000 Turcs. Ils font un bruit déjà assez énorme quand les joueurs turcs sont entrés sur la pelouse. Voilà, c'est les ambiances les plus chaudes d'Europe en Turquie. Et forcément les supporters turcs sont bien organisés et ils vont avoir du mal à exister les Autrichiens, mais ils devraient exister sur le terrain. On va dire ça puisque logiquement ils sont censés être quand même légèrement favoris face à la Turquie, mais ça va nous donner un match assez intéressant.
Ouais.
Alors on a les compos.
On les donnera à 20h30, Xavier, le temps de rétablir ta ligne.
Très
juste
bien,
préciser l'absence majeure côté turc, c'est Çalhanoğlu, le capitaine de cette équipe, qui est suspendu. Arda Güler, lui, sera bien titulaire. On aura le détail de la compo turque et de la compo autrichienne dans une vingtaine de minutes. Mais allons-y donc sur le huitième de finale qui vient de se terminer. Johan Crochet, ça te met un peu de baume au cœur, toi, le spécialiste du foot italien. Enfin, une de tes équipes préférées qui se qualifie pour les quarts de finale. Et avec un score large, en plus 3-0, il n'y a pas eu photo cet après-midi entre les Pays-Bas et la Roumanie.
Ouais, parce que finalement, les Pays-Bas, dans cette phase de groupe de l'Euro, jusqu'à présent, ils n'avaient pas montré grand-chose. La première mi-temps contre la Pologne avait été bonne lors du premier match. Mais après ça, entre la deuxième mi-temps très difficile où ils avaient beaucoup souffert, beaucoup subi contre la Pologne, le match contre la France qui était vraiment absolument catastrophique, et le match contre l'Autriche qui était pas loin d'être aussi catastrophique, pas trop dans... Il y avait eu du circuit de jeu offensif où ça avait bien marché, mais défensivement ça avait été absolument catastrophique. Là, on a vu une équipe qui, malgré 10-15 premières minutes, où ils ont un peu subi le pressing de la Roumanie, qui a mis beaucoup de rythme, d'intensité, comme on a vu depuis le début de l'Euro, où je l'ai trouvé vraiment à la hauteur de l'événement d'un huitième de finale. Après, une fois que les Pays-Bas ont accéléré beaucoup sur le côté droit, d'ailleurs, tout est beaucoup passé par le côté droit, où Dumfries a fait pas mal de différence par la vitesse et par son volume de course. Les Roumains ont eu beaucoup plus de difficultés. Et puis, vous avez un joueur qui avait marqué la Coupe du Monde 2022, qui avait été... l'une des rares satisfactions, mais peut-être la plus grosse satisfaction des Néerlandais, Cody Gakpo, qui est aujourd'hui le joueur majeur de cette équipe-là, pas le joueur au statut, parce qu'évidemment Van Dijk est au-dessus, ouais. Mais quand on parle de joueur majeur, c'est facteur décisif. Vous avez vraiment un joueur qui, quand il prend le ballon, c'est ces joueurs-là de côté qui aujourd'hui gagnent d'un contre un, ont la qualité de frappe, les débordements, repiquer axe pour frapper intérieur. Et lui, il a tout ça. En plus, il est grand, il va vite. Donc il a un profil très très moderne et on l'a vu aujourd'hui, il fait des différences qui sont énormes.
Buteur et passeur d'ailleurs.
Voilà, il marque sur une frappe où il commence déjà sur le côté gauche, il revient intérieur, frappe très forte, 121 km/h quand même la frappe quand elle part. Et puis le deuxième but, débordement côté gauche, habilité, agilité aussi pour sur la ligne de fond pour réussir à driver un peu le ballon et la passe devant le but. Donc c'est vraiment les Pays-Bas pourront pas faire sans lui pour aller loin dans cette compétition.
Cody Gakpo, meilleur buteur de l'Euro, à égalité avec Miko Tadze, Moussiala.
Le premier but, et on sait très bien que l'ouverture du score dans un match, lors d'un match, c'est quelque chose de très important. Moi, je le mets à 99,9% pour le garder.
Ah oui, c'est erreur du gardien de but sur ce but de Gakpo, l'ouverture du score.
Horrible.
Ouais. Horrible. Juste un mot donc sur les Néerlandais, Manu, parce que on est du bon côté de tableau là, de la bonne partie, parce que c'est la partie de la Suisse, la partie de l'Angleterre, la partie qui semble sur le papier la plus ouverte.
T'arrives en quart de finale, hein, je dirais. Il reste que
en quart de finale, tu prends Autriche ou Turquie, hein. Donc.
Et l'Autriche à l'heure actuelle, c'est pas un cadeau.
Ils ont battu 3-2. Hein,
voilà. J'ai gagné.
Oui, bien sûr.
Non, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie, et puis il reste que 3 matchs pour arriver en finale. Donc aujourd'hui, tu vas rencontrer des équipes qui auront le niveau, à mon avis, supérieur à ce qui a été affiché pendant les phases de poule, parce que la gestion est différente.
Le match de ce soir, ça ne te fait pas changer d'avis sur le niveau des Pays-Bas ?
Moi, je les ai jamais mis parmi les favoris. Je les ai mis dans les outsiders. Mmh. Je pense qu'à l'heure actuelle, collectivement, mais même en termes d'individualité, il y a des équipes qui leur sont supérieures. Donc on verra justement avec ces fameux tableaux, comment ils sont dispatchés. Peut-être que ça peut être la chance des Pays-Bas justement.
Roland, qu'est-ce que t'en penses?
Ils ont quand même tout pour justement aller au bout maintenant. J'ai regardé un petit peu les éventuels futurs adversaires. C'est vrai qu'avec en plus le niveau qu'on a vu aujourd'hui, ça peut être le trouble fait.
Parce qu'on parlait des individualités, Gakpo ressort dans cette équipe. On a du mal à trouver les autres leaders quand même. On pense à Memphis Depay qui traverse un Euro un peu difficile.
Aujourd'hui, c'était un peu mieux dans son jeu au but et dans l'orientation. C'était un peu mieux.
Vous avez toujours considéré, excuse-moi, t'interromps, Memphis Depay comme un leader de.
Objectivement, non.
On me dit que c'est un super joueur.
Je crois qu'il a 3 ou 4 sélections de Robin Van Persie.
Il m'a jamais percé l'œil.
C'est pourtant un des leaders.
En fait, il y a un moment où il a été un élément majeur des Pays-Bas. C'était avant et post-Covid, notamment avec Ronald Koeman, son premier passage, où en fait, tu sais, il avait Wijnaldum.
C'est des fulgurances, parce que ça dure pas.
Ouais, mais alors c'est duré quand même 1 an et demi, 2 ans, ouais. Où tu sais, il y avait Wijnaldum, qui était encore au top niveau à Liverpool. Et Koeman avait choisi quelque chose de très intelligent qui marchait beaucoup. Ils avaient éclaté l'Allemagne plusieurs fois d'ailleurs, qui était quand même encore une grande équipe et qui l'a encore aujourd'hui. Mais Depay venait face au jeu en tant que faux numéro 9 et Wijnaldum lui passait dans le dos en tant que numéro 10 qui se projetait beaucoup. Et cette combinaison-là marchait énormément parce que pour un défenseur, c'était un peu dur. Est-ce que tu suis Depay ou est-ce que tu couvres derrière? Comment le milieu gère un peu Wijnaldum dans sa zone qui, lui, va se projeter? Et les deux marchaient très bien. Ça a été le moment, un peu l'apothéose de la carrière en sélection de Depay. Maintenant, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. C'est que c'est pas tant sur les qualités techniques, il peut les avoir, mais il fait plus la différence physiquement. À une époque, il était encore capable de faire un peu la différence physiquement. Là, aujourd'hui, tu sens qu'il est un peu dans le dur, que pour accélérer, pour prendre de vitesse, pour se retourner rapidement, pour éviter les duels, il est un peu moins bon. Alors moi, ça c'est l'avis de Koeman de le mettre faux numéro 9. Moi, tu me demanderais encore aujourd'hui, je ne mettrais absolument pas Depay faux numéro 9. Enfin, en tant que numéro 9, je ne mettrais pas Depay. Quand tu as la chance d'avoir Zirkzee, qui n'était pas dans la sélection au départ, Zirkzee, il a été appelé parce que Brian Brobbey a eu des problèmes à l'entraînement, à un mollet, on ne savait pas trop ce qu'il avait, donc il l'a rappelé. Parce qu'il lui restait une place d'ailleurs. Mais Zirkzee, qui a été énorme en Serie A avec Bologne, le Bologne de Thiago Motta, qui est un plus dans le type de joueur, dans le prototype d'attaquant, qui fait jouer les autres. Donc il a cette capacité-là de paille, il est bon techniquement, mais il bouge beaucoup plus en plus. Et il aide beaucoup plus en phase défensive. Mais Kuban, on l'a vu, hein, Wijnaldum, il a la cave depuis maintenant bien longtemps. Ouais. Mais à chaque fois, sauf aujourd'hui, quand il rentre à une demi-heure de la fin, il fait rentrer Wijnaldum. Alors qu'il n'apporte strictement rien. Le premier match contre la Pologne, Wijnaldum, c'est 6 ballons touchés en 35 minutes.
Bah écoute, moi tu me parles de Wijnaldum et de Depay, c'est deux joueurs, il y en a d'autres également, qui sont au sein de l'équipe nationale néerlandaise depuis tellement d'années, mais je sais pas en fait, surtout ces dernières années sur Wijnaldum, depuis qu'il est parti de Liverpool, c'est plus du tout le même joueur. Et Memphis Depay, partout où il est allé, ça n'a jamais été un hit non plus, ça a toujours été des fulgurances, mais sur la durée, il n'a jamais été là, et puis quelque part, il n'a jamais été au rendez-vous de son potentiel qu'on voyait en permanence. Quoi. C'était toujours un futur espoir, sans jamais vraiment véritablement confirmé. Et je n'arrive pas à comprendre, vu la richesse quand même de ce pays footballistiquement, je n'arrive pas à comprendre qu'il soit toujours obligé de les appeler en sélection alors qu'il y a des relèves derrière.
Quoi. La seule explication qu'on peut te donner, c'est choix du sélectionneur. Il n'y en a pas d'autre.
Mais je comprends pas. Ou alors ils ont peut-être le même agent, je ne sais pas. Mais parce que non, moi, j'ai pas d'explication sportive.
Non, il y en a pas. Parce qu'en plus, tu sais, même là, je viens de parler de Zirkzee, qui est pour moi vraiment le joueur qu'il faudrait installer. Il n'y a vraiment pas photo. Mais même un joueur comme Broby, qui est beaucoup plus brut, qui a une
Broby, force physique, qui prend beaucoup la Ajax, profondeur, très costaud, très véloce.
À l'époque, moi, je me souviens, ça fait 5-6 ans que je le suis. Il était encore en U16 quand je l'ai découvert.
Monstrueux physiquement.
On le comparait beaucoup à Lukaku dans les équipes de jeunes, parce qu'il avait cette présence au-dessus des autres physiquement. Il était plus haut, plus large, plus carré, etc. Aujourd'hui, il fait moins de différence parce que les autres sont devenus aussi plus grands, plus costauds. Dès que tu arrives dans le monde adulte, même si en jeune, t'es beaucoup plus gros, beaucoup plus large que les autres, au niveau adulte, cette différence-là,
elle se réduit,
exactement. Mais c'est quand même un très bon joueur. Il met une vingtaine de buts la semaine dernière avec l'Ajax. C'est un joueur de profondeur. Il fera pas du tout les mêmes choses que Depay ou Zirkzee.
Je sais pas, mais tu as l'impression d'être vraiment passionné par l'équipe néerlandaise. Moi, il y a quelque chose, en fait, que je vois depuis un petit moment maintenant du côté des Pays-Bas, c'est que traditionnellement ils ont toujours joué avec des ailiers qui collaient la ligne.
Ça, c'est fini.
Avec des joueurs, surtout aujourd'hui dans le football moderne, les grandes nations, les grandes équipes, ils ont tous des ailiers qui sont surpuissants, qui vont à 2000 à l'heure et qui bouffent la ligne. Bizarrement, le pays qui a presque inventé ça avec Cruyff et compagnie, on se retrouve avec une équipe qui joue de façon axiale et qui n'utilise quasiment plus ses couloirs avec des ailiers qui collent la ligne.
Alors, il y a une explication sur le dernier mondial. C'est que Louis van Gaal, qui était l'ancien sélectionneur, avait choisi un système en 3-5-2.
Ouais.
Donc, où tu avais des pistons qui pouvaient avoir ce rôle-là vraiment sur les côtés. Par contre, devant, c'était vraiment déserté. Il avait réaxé Cody Gakpo qui jouait en position plus centrale. Là, Cody Gakpo, c'est quand même ce prototype d'ailier-là. C'est quelqu'un qui... Alors lui, il a en plus la capacité en faux pied de rentrer à l'intérieur et de frapper fort. On l'a vu aujourd'hui.
Ouais, mais il a la capacité aussi de partir extérieur. C'est pas véritablement un ailier.
C'est un ailier de formation. Il a toujours joué là. À Liverpool, normalement, il joue là.
C'est plus un joueur axial. Oui, il a joué à différentes reprises sur les côtés.
Je ne sens pas convaincu par cette équipe néerlandaise. Tu n'y crois pas trop, j'ai l'impression, Manu.
J'y crois pas trop parce que elle a de la qualité, elle a pas non plus énormément de qualité époustouflante, mais si elle peut s'appuyer sur une ossature, une colonne vertébrale qui tient la route, comme c'est par Van Dijk derrière, si Van Dijk retrouve justement les caractéristiques qu'ont fait de lui le meilleur défenseur au monde et avant la pandémie, je te dis, là, ils peuvent voyager.
C'est pour ça que le match de soir leur fait du bien, Roland, parce qu'ils restaient sur une défaite 3-2 contre l'Autriche. Là, ils encaissent pas de but, ils gagnent 3-0. Ça va les remettre en confiance,
Puis bon, après, donc, on sait très bien que ça peut changer à tous les matchs. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec Manu, mais cette équipe-là, l'outsider aujourd'hui avec le concours de circonstances qu'il y a eu, où il y a maintenant un côté, je dirais, assez sympa et un autre côté assez difficile. Mais dans ce côté sympa, que cette équipe-là aille en finale, j'aurais été étonné alors qu'aujourd'hui je ne le suis plus.
Ouais. Tu soulignais l'aspect défensif, Benoît.
Ouais.
Si on prend la phase de groupe avant aujourd'hui, le meilleur joueur de ce qu'on va appeler le bloc défensif, c'est le gardien.
Ouais.
C'est pas Van Dijk, c'est pas Hake. Encore que Hake. Moi, j'aime vraiment Hake. Une fois, c'est un choix de Koeman, arrière gauche.
Même s'il peut jouer là avec City parfois.
Pour moi, alors, le jeu est très différent entre City et ce qu'on l'a vu. Parce que quand Vardiol joue arrière gauche avec City, et quand il joue arrière gauche avec Croatie, c'est pas non plus pareil.
Mais quand il joue arrière gauche avec City, c'est souvent une défense à 4, pas une défense à 3.
Et c'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une charnière Hake-Van Dijk. en mettant quelqu'un à gauche, un vrai latéral gauche pour le coup.
Ouais.
Mais c'est vrai que Van Dijk, il a été en difficulté contre la France, contre l'Autriche, il est toujours 4 mètres derrière sa ligne défensive, donc il couvre tous les hors-jeux. De Vrij, bah, il fait ses années, hein, le pépère. Voilà, il n'est pas titulaire à l'Inter, il y a une raison aussi. Dumfries, c'est quelqu'un qui contre-attaque très bien.
Et c'est, lui, c'était le piston par excellence. De...
Voilà,
mais j'arrive toujours pas à savoir. C'est quoi, c'est un défenseur, un attaquant,
bon, c'est un piston.
C'est un piston contre-attaquant. Voilà. D'accord. Je ne peux pas de mieux te le dire.
Les Néerlandais joueront leur quart de finale samedi 21h à Berlin contre le vainqueur du match du soir, hein, Autriche-Turquie. Ça sera donc un match assez ouvert. Et ensuite, pour les demi-finales potentielles, ils croiseront le vainqueur du match entre l'Angleterre et la Suisse. Merci, Johan, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Bonne soirée à toi. Salut, à bientôt sur RMC. Roland reste là. Manu aussi, on parle des Bleus dans un instant, direction Paderborn avec Jeannot Rességuier. Est-ce que ces bleus-là peuvent aller au bout avec un jeu si triste? 32-16 si vous voulez participer au débat avec nous. 20h16, vous écoutez RMC, restez là, vous êtes bien.
Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 32-16, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, l'After Live, Intégral Euro,
Benoît Boutron.
20h19 sur RMC, Manu Petit est là, coach Courbis également. Grande soirée foot puisque c'est la fin des huitièmes de finale de l'Euro 2024. RMC, on est la radio officielle. Le match du soir, c'est l'Autriche opposée à la Turquie. On trouvera Leipzig. Dans 10 minutes, retrouvez Xavier Grimaud. Grosse ambiance attendue. Grosse ambiance et grosse ferveur turque pour ce dernier huitième de finale. Je rappelle la qualification en début de soirée. Les Pays-Bas, les Néerlandais ont sorti la Roumanie. Victoire 3-0. Manu, coach, allons tout de suite à Paderborn, retrouver Jeannot Rességuier au plus près de l'équipe de France. Salut Jeannot.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en plein automne.
Salut Jeannot. Voilà. Et Jeannot qui me confiait au téléphone cet après-midi avoir vibré hier, peut-être l'un des plus beaux matchs commentés par Jeannot dans toute l'histoire de sa carrière de commentateur.
Dis donc, t'as vibré toi Jeannot hier?
Non, pas du tout. Bon, j'ai aimé la défense de l'équipe de France.
Ah ouais.
Ça c'est une certitude, mais alors après le reste...
On rappelle, hein, victoire 1-0 contre la Belgique, encore un but contre son camp, toujours pas de but dans le jeu pour nos Bleus. Nous sommes à 3 jours du
Donc moi c'est une occasion d'attaquant avec un mouvement d'attaquant qui a amené le but, parce que le but de Weber contre son camp, c'était un centre un peu à la one again qui cherchait personne.
Au moins là il y a une intention de tirer, c'est ce que tu veux nous dire quoi. C'est ça. D'accord.
C'est une vraie occasion.
Bon, on se contente de ce qu'on peut, hein, voilà.
10% de tirs cadrés. Donc quand t'as un but qui est comme ça, t'es content.
C'est fou. Hein. Alors justement, dévoile-nous un peu les coulisses de cette qualification. On a senti beaucoup de satisfaction. On a vu d'ailleurs le visage rayonnant du sélectionneur. On l'a senti.
Satisfaction qui ressemblait à des soulagements.
C'est vrai, satisfaction.
Mais c'est ça, exactement, coach. Ouais. Exactement. On a vraiment ressenti ça. Un gros ouf de soulagement à la fin. Il y a cette image de Didier Deschamps qui pénètre très vite sur la pelouse, qui va vite voir ses joueurs, qui les félicite, leur passe la main dans le dos. Le sourire, quand il va en conférence de presse un petit peu plus tard, il a le visage de quelqu'un qui est soulagé, parce que je pense que il a très certainement avec son équipe, il s'est posé des questions de savoir si ça allait passer contre la Belgique, et c'est passé de façon, on va dire, difficile, et donc du coup ça a été un ouf de soulagement. Et quand vous revenez un petit peu en arrière sur le match, vous avez le sentiment que chaque fois qu'il y avait une intervention impeccable d'un défenseur, d'un milieu de terrain, d'un attaquant, souvenez-vous la joie fêtée autour de Colomoigny quand il y a eu le but, mais surtout autour de Théo Hernandez quand il fait le geste face à Carrasco qui revient, on a l'impression que il a presque marqué un but. Non, il a juste fait son boulot de défenseur. Donc c'est une équipe qui était peut-être motivée pour passer ce huitième de finale, mais qui n'était pas tranquille. Et quand on voit ce qui s'est passé à l'extérieur, sur le terrain, à la fin du match, plus dans les coursives avec dans les vestiaires, on avait l'impression que ils avaient atteint la finale du championnat d'Europe. Quoi. Ouais, là, ce n'est que les huitièmes de finale. Et c'est vrai que coach a résumé. C'était un véritable soulagement hier pour les joueurs et le staff de l'équipe de France.
Et on rappelle toujours un but encaissé seulement par l'équipe de France, le pénalty inscrit par la Pologne.
Il y aura et toujours un seul but marqué dans le jeu.
Même pas. Enfin oui, dans le jeu, oui. Enfin,
hier.
Oui, mais il y avait eu un but aussi contre l'Autriche, mais pas de but marqué par nous.
Ouais, on a marqué qu'un seul but en fait.
Mbappé sur pénalty. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est inquiétant. C'est intéressant de parler de ça justement. Est-ce qu'on peut aller au bout avec une tactique comme celle-là? Parce que quoi qu'il arrive, Jeannot, il y aura un changement dans la compo de ce quart de finale.
Un changement de joueur.
Ouais. On s'attendait pas à un attaquant. A priori, on voit plutôt un milieu de terrain qui va revenir.
Après, coach et Manu, vous allez certainement avoir votre avis là-dessus et en discuter. Il n'y a pas de souci. En débattre autour de cette modification de la compo puisque Rabiot est suspendu. Nous, on a discuté entre nous quand on a assisté à la séance d'entraînement avec les remplaçants. Hein. C'était uniquement que les remplaçants. Il n'y avait pas de match avec les jeunes U19 de Paderborn. Puisque les titulaires sont restés travailler au camp de base, enfin travailler relaxation, fitness, massage, soins, etc. Classique. Donc là, on a assisté à une séance d'entraînement où c'est affligeant ce qu'on a vu. Au niveau de la réussite des frappes de la part des joueurs qui étaient présents, tous ceux qui n'ont pas joué hier, c'était affligeant. Donc voilà, le mot est là, on l'a livré. Mais au niveau qualité centre, au niveau des frappes, on a eu droit à toute la séance. Je peux vous garantir que c'était assez surprenant. Bon, ça c'est dit. Après, nous, on a discuté entre nous, journalistes, suiveurs de l'équipe de France, et tous, on est en train de se dire, mais c'est l'occasion rêvée. Ouais. De remettre Griezmann au milieu avec Kanté, avec Tchouaméni, et de mettre un joueur de couloir, d'avoir la possibilité d'apporter un petit plus. Mais moi, je suis pas convaincu de ça.
De toute manière.
Parce que quand tu regardes la séance d'entraînement, Didier Deschamps a parlé très souvent, très fréquemment, avec Youssouf Fofana. Mais et j'ai l'impression que Fofana, peut-être plus que Kamavinga, va remplacer Rabiot et qu'il est capable de nous remettre encore Griezmann sur le côté droit.
Roland, évidemment, on aimerait tous voir autre chose, mais c'est ce qui, a priori, devrait se dérouler pour le match de vendredi. Hein.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand on a l'analyse du match à faire, bon, moi j'essaie, en tant que passionné, de comprendre. D'ailleurs, on se prend tous, et c'est un petit peu logique, la passion prend le dessus pour un sélectionneur, pour un entraîneur, ça dépend des matchs qu'on voit. Et il y a des choses après qu'on arrive à comprendre et d'autres qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Par exemple, on ne parle que de notre équipe de France. Il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si vous avez compris le pourquoi. Moi, je ne suis pas arrivé encore aujourd'hui et pourtant j'y réfléchis. Pour essayer d'expliquer dans le rôle que je suis en train de faire, c'est-à-dire le rôle de consultant, cette équipe de Belgique qui rencontre une équipe de France qui, normalement, doit faire peur. Nous sort une composition d'équipe avec deux numéros 9, un ailier de chaque côté, un numéro 10 derrière ces quatre attaquants,
un seul milieu défensif,
on en a. Une équipe à quatre défenseurs, mais je dirais d'un niveau moyen, et un gardien de but qui est pas mal, mais qui a rien à voir avec Courtois. Et cette équipe-là arrive à ne pas en prendre quatre. Ben ça, si tu veux,
c'est ça qui t'inquiète le plus.
Ah, ça, c'est une anomalie pour moi. Hein. Là qu'on n'arrive pas à faire. Alors je dis pas 4-0, hein. Mais que ce match-là termine pas par 4-2 ou 5-3 et que ça termine par 1-0 avec un tir, parce que si on regarde le tir dévié, ok, mais si le tir il est pas dévié, ce saucisson qui a été tapé par Colomani, je dis sincèrement, mais bravo l'équipe de France. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Rapidement les stats: 52% de possession, 20 frappes tentées par les Bleus, seulement 2 cadrés. Est-ce que ça peut durer?
Excusez-moi, j'ai deux, trois trucs, mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Où veut en venir la Belgique là, avant de rencontrer l'équipe de France? Ils ont un problème. De Bruyne, il n'est pas très bien avec certains supporters et tout. Qu'est-ce que c'est cette équipe-là avec quatre joueurs? Je ne l'ai jamais vu dans l'époque que nous vivons.
Bah, il s'est dit, de toute façon, la France va se contenter de défendre et il faut attaquer à tout va.
Mais ils ont refusé de jouer.
Pas vraiment ce qui s'est passé.
Ils ont refusé de jouer.
C'est sûr. Bah, tiens, on va parler avec Alexandre qui a composé le 32-16 dans un instant. Juste l'avis de Manu. Manu, est-ce qu'avec cette philosophie de jeu, ce bétonnage en règle, est-ce qu'on peut aller loin dans cette compète, voire gagner l'Euro, à ton avis?
J'ai déjà vu des équipes blinder leur jeu et remporter des compétitions. La dernière qui me vient à l'esprit, c'est le Portugal. Rappelez-vous les matchs extrêmement soporifiques en 2016, ça les a empêchés d'être champions d'Europe. Et je me rappelle également un peu plus loin de la Grèce, Rappelez-vous.
Ouais, en 2004.
Ouais. Et ils bloquent, c'est une muraille le truc, et personne n'arrive à les percer.
Oui, mais eux, tu te dis,
ils arrivent à se projeter sur quelques contre-attaques ou utiliser les coups de pied arrêtés, et ils sont champions d'Europe comme ça.
Tu peux aussi nous rappeler cette histoire du Danemark qui est quand même extraordinaire. Les joueurs.
Ah, ils étaient en vacances.
J'ai participé à l'Euro.
Ils arrivent, ils ont le masque, les palmes et le.
Je te jure. Tu vois, ils ont encore des coups de soleil.
Plein de coups de soleil. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est le vestiaire là?
On peut exprimer certaines certitudes, mais encore une fois, c'est jusqu'à une certaine limite, parce qu'il y a des choses, encore, le football moderne nous rappelle toujours à l'humilité, notamment dans les prédictions que l'on peut faire ou les analyses que l'on peut faire, parce qu'à chaque fois, on nous cloue le mou. Donc, pour répondre à ta question, oui, malheureusement, l'équipe de France peut être championne d'Europe.
Alors, malheureusement, non, mais bon.
Si, pour moi, oui, malheureusement, oui.
La question que l'on peut se poser, qui est une question, je dirais, logique et voire même indispensable, c'est est-ce que l'on peut faire mieux? Il y a la question et il y a la réponse tout de suite, mais après, c'est-à-dire faire mieux. Mais quand je regarde tous les cas de figure qu'il peut y avoir, et que dans un match contre la Belgique, qui se permet de mettre 4 attaquants avec De Bruyne, et que nous avons sur le banc, ou à l'extérieur du banc, je ne sais pas où on est, Coman, Dembélé,
Coman,
Giroud, Barcola, Coman.
Coman, il est là.
Et que ces joueurs-là. Enfin,
Coman était là hier. Aujourd'hui, il n'y est plus. Il est reparti en Suède. Hein.
Une minute.
Sa femme va accoucher.
Il n'y a pas un joueur qui joue une minute dans ce France-Belgique. Moi, je te dis, c'est vrai que tu peux aller au bout. Alors, qu'est-ce que tu veux analyser? Analyser quoi?
Tu sais quoi, Roland? Tu vas être confronté à un autre point de vue que le tien. C'est Alexandre qui a composé le 32-16 qui va le développer. Salut, Alexandre.
Oui, salut tout le monde. Salut. Merci de m'accueillir sur votre antenne.
Avec plaisir. Toi, tu as une vision complètement différente de la situation de l'équipe de France.
Alors totalement. Alors j'ai eu cette vision il y a très longtemps, et en fait Deschamps à l'usure a fini par me convaincre. Il m'a complètement. Moi, je suis supporter de l'équipe d'Espagne en fait. Mes parents sont espagnols depuis toujours. Mmh. Et en fait, en Espagne, déjà, on craint beaucoup, beaucoup, beaucoup l'équipe de France parce qu'elle est monstrueuse. Moi, à chaque fois que je la vois jouer. Je souhaite sa défaite, et à chaque fois que je la vois jouer, je suis impressionné par la solidité de cette équipe. Comment il s'appelle Carrasco, hier, il a pris un mur. Comment il s'appelle le mec Doku, il a pris un autre mur. Cette équipe de France-là, elle est extrêmement solide. Deschamps, il est en train de faire un travail. Il n'a pas le temps de travailler l'attaque, je pense. Il n'a pas le temps de peaufiner ses choix offensifs.
C'est peut-être pas la philosophie non plus.
Ouais, et puis même, c'est trop court. Moi, je pense que Deschamps, c'est mon analyse, il est arrivé, il a dit, les gars, on va faire ce qu'on sait faire, on va défendre, on va travailler le système défensif à fond. Kylian, je te passe les clés. Griezmann, je te passe les clés. Et devant, dans les 30 derniers mètres, c'est à vous de jouer. C'est pour ça que moi, l'histoire de Coman, etc., n'importe quel joueur qui va rentrer sera la copie conforme d'un autre joueur.
Ouais, pour toi c'est vraiment ancré dans la philosophie de Deschamps et de voir cette solidité à tout prix, donc avec matérialisée par ce milieu de terrain.
Si je peux me permettre, après je vous laisserai débattre. Mais de toute façon, Didier Deschamps ne s'est jamais caché là-dessus depuis qu'il est sélectionneur depuis 2014. Son objectif, c'est d'être solide. Son objectif, c'est de ne pas prendre de but. À partir du moment où il est costaud derrière, à partir du moment où il est solide avec un équilibre, il sait qu'à tout moment, il peut avoir de la réussite devant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réussite-là, elle fuit l'équipe de France. Parce que ne pas arriver à cadrer, ne pas arriver à mettre un ballon au fond, avec les atouts que tu as, et surtout avec Kylian Mbappé, et avec peut-être d'autres joueurs, ça, c'est peut-être une inquiétude et une vraie interrogation. Mais quelque part, il est dans sa philosophie de sélectionneur. Costaud derrière, et devant, il se passera toujours quelque chose. Et c'est ce qu'il va souhaiter par rapport au Portugal. Hein. Ne vous faites pas d'autres idées.
Hein. Je peux me tromper. Hein. Mais je n'ai pas rêvé quand même. Sur ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois, on avait quand même, dans nos débats, expliqué que Didier évoluait et qu'on était passé avec le Matuidi et le Sissoko qui étaient donc des faux ailiers, etc. On était passé quand même à trois attaquants plus Griezmann.
Plus Griezmann. C'était son idée de début de compétition.
Mais n'oublie pas ce qui s'est passé au mois de mars. Tu perds contre l'Allemagne, t'as un milieu de terrain qui est inexistant. Bon. Tu gagnes contre le Chili 3-2 très difficilement. T'as un milieu de terrain et la défense qui est pas bonne. Il avait une idée précise d'une charnière et d'une défense. Il l'a modifiée et il est très content de voir que ça se passe bien entre Upamecano et Saliba. Il a fait revenir Kanté pour être encore plus costaud, encore plus solide au milieu de terrain. Maintenant, il a plus qu'à croiser les doigts et que ses attaquants et Kylian Mbappé mettent des ballons au fond. Sinon, on aura un remake du match contre la Belgique, contre le Portugal et peut-être en demi et peut-être en finale. Alors oui, pour moi, l'équipe de France, en étant aussi chiante qu'elle l'est aujourd'hui, elle peut être championne d'Europe.
C'est donc le pragmatisme de Deschamps. On remercie Alexandre, on remercie Jeannot aussi. À pas
ciao, mes gars.
On lui souhaite bonne soirée.
Benoît. Oui. En ce qui concerne les trois attaquants.
Il faut qu'on y aille après, Roland.
On précise quand même que sur les trois attaquants, on a les deux stars, si tu veux, offensifs pour du football français, c'est Mbappé et Griezmann. Oui. Et qui sont tous les deux à 50% de leur qualité en ce moment.
Ah bah, ça,
donc
c'est
nous avons seulement trois joueurs offensifs.
Avec des joueurs diminués, tu as raison.
Ben oui. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut aller au bout? Oui, avec un Griezmann qui s'améliore et un Mbappé qui arrive à s'améliorer. Quand je vois le geste d'Mbappé et que maintenant, il s'est habitué à frapper 2 mètres dessus, je suis quand même un petit peu inquiet.
Allez, on reparlera de l'équipe de France tout au long de la soirée. De toute façon, 20h33 sur RMC. On se penche dans un instant sur le dernier huitième de finale qui nous attend ce soir. Ce Turquie Autriche avec Xavier Grimaud en direct de Leipzig et avec des spécialistes. Paulo Breitner qui sera là, justement le spécialiste de l'Autriche pour RMC. On sera également avec un journaliste franco-turc, ami d'RMC et de l'After, Youssouf Salik. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live, Intégral Euro,
Benoît Boutron.
20h37 sur RMC, Manu Petit et la coach Courbis également dans 23 minutes, le dernier huitième de finale de cet Euro 2024. Peut-être le plus indécis entre l'Autriche et la Turquie, à suivre sur RMC, bien évidemment. Retrouvons tout de suite Xavier Grimaud à Leipzig. Rebonsoir Xavier.
Rebonsoir à tous.
Ah, et là on l'entend parfaitement. Tu peux nous donner des compos pour ce match, Xavier, du coup.
J'espère que ça tiendra bien. L'ambiance elle est encore un peu plus belle avec les drapeaux turcs notamment qui sont sortis. On va quand même donner l'honneur aux Autrichiens qui reçoivent, en tout cas sur le papier, cette rencontre. On aura donc Patrick Pence dans les buts, en rappelant notamment que Wimmer est suspendu. C'est le seul suspendu du côté de l'Autriche. Donc Patrick Pence dans les buts, une défense Stéphane Poche, Kevin Danso de retour, Philippe Lienhardt et Mouéné. Danso de retour dans le 11, hein, il était titulaire contre la France. Après, il a passé le deuxième et troisième match de poule sur le banc. Ouais. Au milieu du terrain, on aura Nicolas Zewald ici à Leipzig, là où il joue au RB Leipzig, avec Konrad Leimer à ses côtés, Sabitzer sur le côté droit, Romano Schmidt sur le côté gauche, ou l'inverse, éventuellement, ça va sans doute combiner. Et Sabitzer en soutien de Marco Arnautovic. Donc Romano Schmidt est titulaire, il était titulaire lors du troisième match de poule, alors que les deux premiers, il était plutôt sur le banc. Voilà pour l'équipe de Ralf Rangnick. Du côté de l'équipe turque, on a parlé tout à l'heure, le grand absent, c'est évidemment Çalhanoğlu, hein, le capitaine de cette équipe turque qui est suspendu. Ouais. On aura Gunok dans les buts, une défense avec Muldur, Demiral, parce qu'Al-Kaidin également est suspendu du côté turc, Bardaksi, Kadioglu pour la défense. Au milieu, on aura Eyan qui sera capitaine à la place de Çalhanoğlu, Yüksek et en attaque Arda Güler, Yildiz, Kokçu et Yilmaz à la pointe de l'attaque. On a donc Güler 19 ans à droite et Yildiz 19 ans à gauche, la jeunesse offensive turque qui va devoir s'employer ce soir.
Je parlais de match indécis sur le papier, les gars, vous le voyez comment ce Autriche-Turquie, Manu?
Alors si l'Autriche met les mêmes ingrédients qu'elle a mis depuis le début de la compétition, ça risque d'être très compliqué pour les Turcs, même si c'est une équipe très vaillante aussi, dure et âpre au combat, qui est capable aussi de fulgurance, parce qu'elle a quand même des qualités individuelles qui pour moi me semblent assez dangereuses. Mais le rouleau compresseur des Autrichiens, pour l'instant, moi j'ai pas vu une équipe jouer aussi bien collectivement que les Autrichiens.
Ouais.
Alors j'ai adoré l'expression collective de l'Espagne avec le ballon, mais du début jusqu'à la fin, les Autrichiens contrôlent parfaitement ce qu'ils ont à faire sur le terrain. C'est l'équipe qui court le plus, qui se donne le plus, mais ils ont un vrai projet de jeu, quoi. Ouais. Et ça embête énormément d'équipes.
Et ça sans star, en tout cas sans star sur le papier. Roland, t'es d'accord avec Manu?
Ben oui, donc je vais regarder ce match, évidemment. Je suis très intéressé, mais je m'imagine un match très serré. Je ne serais pas surpris si on va au tir au but.
Ok. Paulo Breitner est là.
Pas trop long.
Si, tu vas prolonger ta soirée.
Il
n'y
aura pas trop long.
Pour ton plus grand bonheur, Manu, tu seras avec nous jusqu'à minuit.
Pour aller au tir au but, il faut aller au
prolongation. Non, mais c'est comme ça que ça marche.
Pas envie, non.
Paulo Breitner avec nous, drôle de dame allemande, spécialiste également de l'Autriche. Salut, Paulo.
Bonsoir mon cher Benoît, bonsoir tout le monde.
Ah, t'as dû vibrer, t'as dû aimer ce que vient de dire Manu Petit. Pas de star dans cette équipe, mais un jeu collectif. Ralf Rangnick à la baguette et tout qui se passe bien.
Il y a pas mal de bons joueurs quand même qui sont passés dans des beaux clubs. Hein.
Oui, c'est vrai.
Aussi, ouais, aussi. Ouais.
Mais pas de star revendiquée.
J'ai une vraie question pour Roland en fait.
Ouais, vas-y.
Mais je sais pas, je sais même pas s'il l'a vu jouer, parce que ce match ce soir est historique si les Autrichiens se qualifient pour les quarts de finale. Et il faudrait, je crois, remonter à l'Euro 1960, à l'époque où il y avait que quatre équipes qui se disputaient directement les demi-finales, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et il y avait des matchs qualificatifs. Et l'Autriche était pris une raclée à l'époque face à l'équipe de France qui organisait le championnat d'Europe 1960. Et il y avait un joueur qui, pour moi, est le plus grand joueur autrichien de tous les temps. Il y a débat en Autriche. C'est Gerhard Hanapi. Et je ne sais pas si Roland l'a vu jouer ou là on en a entendu parler, etc. Non. Parce que c'est évident que c'est plus que la télé. Évidemment, c'est pas la télé d'aujourd'hui. Mais voilà, je voulais juste savoir s'il en a entendu parler.
Non, sincèrement, et je peux même te dire qu'en 1960, je n'avais pas la télé, même si j'ai eu la chance dès que la télé est sortie de la voir avec mes parents et mon père qui est toujours se débrouiller. Donc non, là, malheureusement, non.
Ah, c'est dommage.
Bon, écoute, allons-y sur cette équipe autrichienne. Il y a un fait marquant entre ces deux équipes. Elles se sont croisées en mars d'ailleurs en match amical. Et il y a eu une toise infligée par l'Autriche à la Turquie, 6-1. Donc l'Autriche sait faire mal à la Turquie.
C'est vrai, mais bon, sur les derniers matchs, la Turquie avait une tendance à gagner ses rencontres contre l'Autriche. Mais c'est vrai que ce match de fin mars, au Hans-Stapel-Stadion, a été quand même extrêmement bizarre. Puisque en première mi-temps, les Autrichiens mènent 2-1, tu sais pas pourquoi. Et puis la Turquie s'écroule complètement en seconde mi-temps, ce qui amène le fameux 6-1, dont un triplé de Grégory, si même moi ne me fait pas défaut. Et si tu veux, beaucoup de personnes disent « Ah, oh, c'est formidable l'Autriche !» Mais lorsque tu vois les 45 premières minutes, les Autrichiens, encore une fois, ne savent pas pourquoi ils rentrent au vestiaire avec un but d'avance sur la Turquie. Donc je reste extrêmement... pour moi, ce soir, c'est évidemment du 50-50.
Ouais.
Parce qu'il manque peut-être encore quelques références à l'Autriche. Et puis, encore une fois, la Turquie, dans les championnats d'Europe, elle a prouvé par le passé qu'elle était capable de faire des choses assez extraordinaires. Le fait que Çalhanoğlu soit pas là...
Ouais, mais c'est ça que je voulais te dire. Ça, c'est peut-être une absence plus qu'importante.
Maintenant, encore une fois, la compo de ce soir est géniale parce qu'on arrive à, enfin, Ralf Rangnick met vraiment ses joueurs en concurrence. Romano Schmid, il était même pas sûr d'être dans le groupe avant l'Euro. Et ben, il joue sa deuxième titularisation à la suite. Il sort Grilic, il fait reculer Laimer. Il met enfin la défense centrale que j'attends, Linhart, Danzo, évidemment, et non pas Weber, qui a pas été excellent et qui est plutôt, pour moi, un central décalé côté gauche, en l'absence d'Alaba. Mais c'est vrai que c'est une opportunité pour l'Autriche très très importante, et en Autriche, y compris l'ancien sélectionneur Franco Foda, qui était là en 2021, dit que quand même l'avantage d'avoir des joueurs formés par la galaxie Red Bull, ça aide énormément Ralf Rangnick, qui évidemment est l'un des fondateurs de cette fameuse galaxie.
Alors il y a quand même un argument, on l'a dit tout à l'heure, on l'avait dit déjà sur les matchs précédents, c'est que l'Autriche va jouer à l'extérieur ce soir.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on va en parler dans
un
instant.
Tu vois, le soutien, on
va
connaît compter. Justement la ferveur des Turcs dans les tribunes, donc ça peut avoir un effet en termes d'adrénaline sur les joueurs.
On le voit depuis le début de cet Euro. Paulo, on te libère parce que tu dois répondre à d'autres obligations. Tu reviens de toute façon tout au long de la soirée, dans l'after notamment, pour analyser cette Autriche-Turquie. On accueille donc Youssouf Çalık, journaliste franco-turc. Salut Youssouf.
Salut, bonne émission à tous.
Eh ben écoute, merci d'être là. Tu dois être assez excité comme ça à 16 minutes du coup d'envoi. On parlait de ferveur populaire turque, on le ressent depuis le début de l'Euro. Là, ça doit être exacerbé avec ce match couperet. Ça y est, on attaque la phase à élimination directe et la Turquie est peut-être devant un moment historique d'ailleurs.
On a déjà fait les demi en 2008, mais oui,
c'est vrai.
Mais depuis, pour ce groupe. Depuis, non, on n'a pas fait grand-chose. Je pense que l'objectif initial a été atteint pour sortir du groupe. Si on n'était pas sorti du groupe, on a considéré que c'était un mauvais tournoi pour la Turquie. Mais là, l'objectif est atteint et c'est un jeune groupe qui reste à être une équipe, à prouver sa valeur et puis bon, se préparer pour 2032. On va accueillir l'Euro avec l'Italie, donc c'est un projet à long terme un peu. Mais ce groupe-là, un peu vécu des crises au long de, tout au long de ce tournoi. Les crises avec Arda, les crises des choix du sélectionneur. Donc, le jeu qui n'était pas à la hauteur des attentes aussi. Et on a gagné contre la Tchéquie, mais on n'a pas très, très bien joué. Ils étaient réduits très vite à 10. Et pourtant, ils ont bien dominé le jeu. Donc, il y a des trucs, il y a des points d'interrogation sur cette équipe. Mais bon, ouais, on est excités. Hein,
Youssouf, il y a quand même, on le disait avec coach Courbis, une absence prépondérante, c'est celle de Çananoğlu au milieu de terrain, parce que c'est le capitaine, c'est vraiment le leader de cette équipe. Et il est à la base de tout. Il frappe les coups de pied arrêtés. Ça va être dur à remplacer.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est surtout que c'est le joueur le plus expérimenté au niveau international de la Turquie, donc l'expérience, ça va manquer aussi. Quand on compare les deux équipes, l'équipe autrichienne et qui a plus l'habitude de jouer ensemble déjà par rapport à la Turquie. La Turquie, c'est un groupe qui a été constitué il y a pas très longtemps. Et autre chose, c'est l'expérience. L'Autriche est plus expérimentée. On va jouer comme à la maison, comme vous l'avez dit, mais Leipzig, ça reste quand même la partie la plus autrichienne de l'Allemagne. Il faut pas l'oublier non plus.
Voilà, donc il y aura également du soutien pour les Autrichiens, en tout cas sur ce match entre deux fortes communautés présentes en Allemagne, l'Autriche et la Turquie. Merci Youssouf, bon match à toi. Toi aussi, on te retrouvera dans l'after pour analyser ce match entre l'Autriche
merci à vous.
Et la Bonne Turquie. Soirée. C'est le dernier huitième de finale de l'Euro 2024 et tout de suite, on parie sur cette affiche.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet, notre expert en paris sportif. Salut Christophe.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Alors, on le disait, affiche indécise sur le papier, est-ce que ça se ressent au niveau des cotes?
Non, pas vraiment. L'Autriche est bien favorite, hein, 95, le nul 3,40 et la victoire de la Turquie, c'est 4,50. L'absence de Çalhanoğlu, pour moi, est prépondérante. En plus de ça, cette équipe d'Autriche, j'étais complètement d'accord avec ce qu'a dit Manu tout à l'heure, c'est pour moi, parmi les non-favoris, c'est l'équipe qui a été la plus séduisante, la plus attrayante, qui a proposé le meilleur jeu. Et je pense que l'Autriche va gagner et je trouve que cette cote à 1,95 est déjà très intéressante. J'irais même plus loin, moi, je vois l'Autriche avec des buts, au moins deux buts d'écart pour l'Autriche, c'est coté à 3,10. Oui, je pense que la Turquie est capable de marquer aussi, jouer à 3-1. Enfin, pour moi, ça va être un match très intéressant et pas fermé du tout. Pour le buteur, je vais vous proposer en premier lieu Baumgartner. Il a mis 6 buts sur les 8 derniers matchs de l'Autriche. Il est coté à 3,60, le milieu de terrain offensif autrichien. Mais je pense que les Turcs sont capables de marquer. Donc si on fait Autriche et les deux marques, c'est 3,75. Autriche plus Baumgartner, on est à 4,70. J'avais préparé un my match coté à 16. L'Autriche gagne. Baumgartner et Gregoric. Alors lui, je le cite parce qu'il peut rentrer en deuxième période et il a mis un triplé lors du 6-1. Et les deux équipes marquent, on a une cote de 16. Ouais. J'espère qu'on va se régaler, en tout cas c'est comme ça que je vois cette
victoire. Manu, t'avais l'air plutôt convaincu par la victoire autrichienne.
Oui, mais pas aussi facile que ce que je viens d'entendre, avec un écart de but de 2 buts.
Un 3-1, quoi.
Ouais, non, moi je vois plutôt un match beaucoup plus disputé, indécis. Je pense qu'il faudra attendre certainement la deuxième période pour que voir un but. Je pense que les deux équipes vont se regarder, vont se jauger sur la première mi-temps.
Okay.
Et je vois effectivement l'Autriche l'emporter avec les deux équipes qui marquent quand même.
3
avec 75. Un but de Sabitzer.
Ah. Sabitzer, il est à 3,80. Intéressant aussi.
Roland, prolongation alors.
Deux tickets.
Ah.
Le premier ticket, prolongation. Ouais. Et deuxième ticket, tir au but.
Et ben voilà.
Et au tir au but, Turquie qui gagne.
Turquie au tir au but, c'est 9,50.
Voilà. T'as vu ce que c'est que du panache, Manu?
On sent les professionnels des paris, là, tu vois. Là, ils s'en foutent du match. Bon. Il va dire, ils sont prolongés au pénalty.
Il a pris 20 secondes, pam. Ouais.
J'attends le premier jour premier jour que je gagne.
Ça, c'est autre chose. Allez, merci Christophe. Les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
20h49 sur RMC. Dans 11 minutes, le dernier 8e de finale de l'Euro 2024 entre l'Autriche et la Turquie. Xavier Grimaud à Leipzig. Manu Petit, coach Cantemis pour la Dream Team. Vous au 32-16, également sur nos différents réseaux sociaux pour participer à cette grande soirée. On reparlera également de l'équipe de France. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live, Intégral Euro.
Benoît Boutron.
20h52 sur RMC, on est là pour le dernier huitième de finale de l'Euro 2024, RMC Radio officielle. Manu Petit est là, il est en grande forme. Coach Courbis également. Turquie-Autriche dans 8 minutes sur RMC avec Xavier Grimaud en direct de Leipzig. Xavier, est-ce que ça y est, l'ambiance monte, les joueurs se mettent dans le couloir?
Exactement, les joueurs sont prêts. On a sur les écrans géants Marko Arnautović, le capitaine autrichien, le meilleur buteur de l'histoire autrichienne avec ses 35 ans qui aura aussi un gros rôle à jouer. Il va avoir des gros combats physiques. Parce que je ne sais pas si on peut parier sur les cartons, il n'en a pas parlé à Christophe Payet, mais il y aura des cartons. Hein. C'est quasiment certain puisque les Turcs ont pas moins de 10 joueurs sous la menace d'une suspension pour un éventuel quart de finale. Il y a eu 16 jaunes, 2 rouges lors du dernier match face à la République tchèque. Donc les Turcs se donnent toujours à 200%, parfois à la limite. Mais on peut s'attendre aussi à un combat assez âpre. Le protocole est en place avec les drapeaux qui s'agitent et les joueurs qui vont entrer sur la pelouse dans un instant pour ce Autriche-Turquie. Il est beau hein, ce stade de Leipzig.
Ouais.
On est très très proche de la pelouse. 40 000 spectateurs à taille humaine. Et ça va être formidable. L'ambiance va être formidable, c'est certain.
Xavier, est-ce qu'on a le temps de rappeler les infos principales des compos? Le grand absent de la soirée, c'est Çananoğlu, le capitaine turc.
Ouais, évidemment, hein, c'est comme tu l'as dit, le guide hein, de cette équipe turque. 86 sélections pour Çananoğlu qui a pris un carton un petit peu bête et qui ne sera pas là. Bah, il sera remplacé hein, au milieu de terrain. Ce sera Can Ehan, le joueur de Galatasaray, qui sera capitaine. Ce soir, il y aura Ismail Yüksek également au milieu du terrain et Orkun Kukçu. Ce sera pour le milieu turc. Il faudra en faire 100, évidemment. Ce sera très certainement un peu plus compliqué, peut-être pour la gestion des émotions aussi, parce que cette équipe turque, elle est assez jeune. On va notamment scruter Arda Güler, hein, la pépite turque. Et Kenan Yıldız également, lui aussi, hein, 19 ans, le joueur formé au Bayern de la Juventus de Turin. Ça sera très intéressant de voir comment ils vont réussir à s'exprimer dans un huitième forcément sous pression, alors que les deux équipes entrent à l'instant sur la pelouse de la RB Leipzig Arena pour ce dernier huitième de finale, ouais, pour aller rejoindre donc les Pays-Bas en quart de finale. Les voilà. Dans un instant.
On pourrait avoir trois équipes de notre groupe qualifiées pour les quarts de finale. On vous le rappelle, donc l'équipe de France, les Pays-Bas qui viennent de se qualifier, l'Autriche qui pourrait le faire également face à la Turquie. Manu Petit est là, coach Courbis. Les hymnes vont intervenir d'ici quelques secondes, Xavier.
Oui, exactement. Les joueurs qui sont en train de s'aligner devant la tribune. Alors, ça fait un drôle d'effet parce que la tribune de presse est à l'opposé. Donc, on a les joueurs de dos, c'est assez rare. Mais c'est comme ça dans le stade de Leipzig. Et on va commencer par l'hymne turc. L'hymne de la Turquie qui va être chanté par, je pense, au moins 20-25 000 spectateurs qui sont dans le stade. L'İstiklal Marsi, l'hymne turc, immédiatement dans la RB Leipzig Arena. Repris en cœur évidemment, la main sur la poitrine, les drapeaux turcs qui s'agitent et l'hymne autrichien maintenant, Landenberge, Land am Strom, pour les Autrichiens qui vont donner de la voix aussi, même s'ils sont moins nombreux.
L'hymne autrichien à Leipzig, c'est le dernier huitième de finale sur RMC. Autriche, Turquie, avec Manu Petit, avec Coach Courbis, avec Xavier Grimaud en direct du stade à Leipzig. Et vous, sur les réseaux sociaux, au 32-16. La dernière pause, 30 secondes de pause et on revient avec une première période en intégralité. Grande soirée foot sur RMC encore une fois.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.